Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord, je suis ravie de vous retrouver, 12h07 en direct sur Sud Radio, on poursuit l'émission. Et surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, vous le savez, vous êtes absolument chez vous sur notre antenne, 0 800 26 300 300. Merci Maxime qui me rappelle effectivement le bon numéro. On va tout de suite parler des Jeux Olympiques, hein. Vous l'avez suivi certainement, cette magnifique cérémonie hier à Marseille, on a allumé la flamme. Ça y est, c'est parti ou presque pour les JO. Alors, est-ce qu'ils vont rendre la France plus attractive? On en parle tout de suite avec vous, Didier Arino, directeur général de Pro Tourisme. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Sud Radio.
Comment vous l'avez trouvé cette cérémonie d'hier? On a eu la cérémonie un peu cliché pour certains. En tout cas, c'était les critiques de certains pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Là, c'était peut-être tout un autre parti pris. Vous avez trouvé ça comment, Didier Arino, en tant que professionnel du tourisme? Vous êtes dit, on fait la fierté de la France et c'est réussi?
Écoutez, oui. D'abord, ça met à l'honneur Marseille, qui est une superbe ville, une superbe destination, qui est souvent d'ailleurs stigmatisé pour ses problèmes à Marseille Nord. Mais la réalité, c'est que c'est véritablement une superbe destination. Ça ancre aussi le caractère méditerranéen en partie de notre pays. Donc je trouve que c'est une belle manifestation. Espérons que la suite se déroule de la même façon, car nous avons besoin d'une belle image de notre pays et dans la joie, dans le partage, dans l'esprit de l'olympisme en quelque sorte.
On parlait tout à l'heure, Didier Arino, avec nos chroniqueurs, de choix politiques, de cet aspect forcément politique qu'il y a autour des Jeux Olympiques, mais enfin, on ne peut pas y couper, n'est-ce pas? L'enjeu est tel que de toute manière, toute décision autour d'une cérémonie, autour de la communication qui entoure les Jeux est forcément politique.
On voit bien que les grandes manifestations sportives mondiales sont utilisées par les politiques, par les grands pays. Si le Qatar a voulu la Coupe du Monde de football, c'est pour améliorer son image. On voit qu'aujourd'hui, toutes les manifestations sont utilisées de façon politique. La question et le fond du sujet, c'est est-ce que ça valorise notre nation, nos territoires? Est-ce que ça permet de générer de la croissance économique, de la joie et du partage? C'est ça le grand défi. Donc il faut aussi qu'on prouve notre capacité à bien organiser ces Jeux, comme on avait bien organisé la Coupe du Monde de football en 1998, qui a été aussi un beau booster du tourisme hexagonal et de l'attractivité de la France.
Vous, en tant que professionnel du tourisme, c'est quelque chose que vous redoutez? Vous êtes inquiet? Vous dites, il faut qu'on les réussisse, ces Jeux. Vous êtes plutôt optimiste sur la tournure que prend les choses?
Alors, je suis plutôt optimiste à une seule condition, c'est qu'une nouvelle fois, on ne se tire pas une balle dans le pied. Le premier ennemi de la France, c'est nous-mêmes. Si on n'a pas de blocage de certains corporatismes, si on n'a pas de problèmes sociaux, si bien sûr on arrive à gérer le risque de sécurité pour ces JO, ben ça sera une très bonne chose pour notre pays. Mais vous savez, Paris n'a pas attendu les JO d'un point de vue touristique pour être la première destination, la première ville au monde à attirer les clientèles étrangères. On n'est pas dans la même cas de figure que Barcelone, qui a fait des Jeux un élément de découverte et d'attractivité de Barcelone. Donc, on est obligé de réussir ces Jeux.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il y a certaines villes pour qui ça a été vraiment un booster d'attractivité, d'autres peut-être au contraire, comme par exemple les Jeux de Rio, on avait peut-être focalisé davantage sur des problèmes de sécurité. Ça peut être à double tranchant, justement.
Pour Rio, il y a eu des reportages semaine après semaine, qui montrait la corruption, les retards, l'insécurité. Donc, ça a été assez catastrophique en termes d'image. D'ailleurs, on sait que l'année des JO, on a une fréquentation qui est plutôt inférieure sur l'ensemble de l'année. Bien sûr, on aura un pic de fréquentation les 3 semaines de la compétition, mais depuis le début de l'année à Paris, on a des chiffres qui sont en baisse en termes de fréquentation. On voit que 1/3 des chambres d'hôtel ne sont pas réservées pendant ces JO. Et aussi parce qu'il y a plus d'offres sur le marché, notamment d'offres de particuliers via les plateformes en ligne.
Oui.
Donc, c'est pas les retombées économiques pour notre pays, elles seront pas considérables. Liés au JO,
c'est une déception là, parce qu'on va s'arrêter quelques instants justement. Vous dites aujourd'hui là, les réservations n'y sont pas complètement, mais enfin ça devrait l'être à 2 mois, à 78 jours des Jeux. On devrait être, vous attendiez à davantage de réservations?
Moi non, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que les instances gouvernementales ont raconté des craques, hein, des carabistouilles, comme diraient certains aux acteurs du tourisme. On savait très bien, on a l'expérience de Londres. Et on sait très bien que pendant ces JO, il y a un phénomène d'éviction, c'est-à-dire la clientèle qui vient habituellement ne viendra pas du fait de prix trop élevés, ou tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les JO. Et donc, il y a une défiance vis-à-vis de la France d'un certain nombre de clientèles. Alors, bien sûr, on aura 2 millions de clientèles étrangères qui viendront, mais on est très loin des 16 millions annoncés. Les 16 millions, c'est quoi? C'est avant tout des franciliens. Et là, ce n'est pas des touristes, c'est des habitants de proximité. Donc, on sait qu'on aura 2 millions d'étrangers. C'est bien, mais Paris a autant d'étrangers l'été, les autres années. Donc, on ne peut pas dire que ce soit les JO qui génèrent une attractivité. L'attractivité, elle se fera dans les mois et dans les années qui viennent, pour peu que les choses se passent bien et qu'on donne une belle image de notre pays. Ça peut être une formidable campagne de communication positive de la destination France. Ça peut être aussi à l'inverse, le pendant. C'est que si les choses ne se passent pas bien, ben là, on aura en quelque sorte perdu beaucoup. Mais vous savez, les retombées économiques des JO, elles se font surtout par les investissements qui sont faits au travers des infrastructures.
Oui.
Et ces infrastructures resteront. Et ça a plutôt été bien pensé. On a tendance un peu à s'auto-flageller en France. Là, on fait des JO avec un coût raisonnable. Et par rapport à d'autres nations...
Vous trouvez que c'est un coût raisonnable? On a beaucoup parlé, par exemple, du centre nautique en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, en face du Stade de France. 174 millions, me semble-t-il. C'est un sacré surcoût par rapport à ce qui était prévu à l'origine.
Alors, ici ou là, bien sûr, on trouvera des équipements qu'on peut juger surévalués par rapport à... Bien sûr, on pourra toujours trouver, mais dans tout grand projet comme ça. Mais en attendant, il y a aussi toutes les infrastructures qui ont été créées, qui vont rester au service des Franciliens, au service de la nation. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. 80% des investissements ont été faits par les privés. Et donc, véritablement, c'est une bonne chose. Ça a été plutôt bien pensé de ce point de vue. Après, bien évidemment, quand on fait des Jeux Olympiques, il y a un certain nombre de pratiques sportives qui nécessitent des investissements importants pour accueillir les JO et pour lesquels l'utilisation sera relativement limitée. Mais ça a été très bien pensé de ce point de vue-là. On ne peut pas le reprocher aux organisateurs et à la France qui a amené une très bonne candidature.
Et sans surcoût rapidement, parce que c'est ma dernière question, ça a filé sans surcoût pour le contribuable officiellement. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment...
Vous savez, d'abord, il y a sans surcoût pour le contribuable et surtout, au travers des investissements, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés. Mmh. Et justement, le tourisme, comme les grands événements, l'intérêt, c'est que ça rapporte au pays. C'est pour le tourisme, l'intérêt de l'activité touristique, c'est de pouvoir vivre au pays, c'est de pouvoir participer de l'aménagement du territoire, d'amener des services dans nos provinces. Sans le complément de l'activité touristique, il y aurait bon nombre de bouchers, de boulangeries, de pharmacies qui auraient fermé dans des zones qui sont déjà aujourd'hui des zones en voie de désertification. Donc le secteur du tourisme ou des grands événements est fondamental pour notre pays. L'important, c'est l'investissement par rapport au retour. C'est ça qui doit prévaloir. C'est la création d'emplois, c'est la création de richesses. On n'organise pas cela uniquement pour se faire plaisir.
Très bien, merci beaucoup Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants où on va évoquer un tout autre sujet, la situation au Moyen-Orient. Est-ce que l'accord entre Hamas et Israël est toujours possible? On en parlera avec notre spécialiste dans quelques instants.
Sud Radio H
102
Sud Radio.
Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine, shower me with.
from a distance. All these mountains are just some tiny hills. Why?
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
12h20 en direct sur Sud Radio, mettez-vous d'accord. On se retrouve et on parle de l'actualité au Proche-Orient. Est-ce qu'un accord est toujours possible? L'accord de cessez-le-feu peut-il toujours être mis en œuvre? Est-ce qu'on est dans l'impasse? Pour la première fois, Washington menace de cesser les transferts d'armement à Israël en cas d'offensive majeure à Rafah. On en parle tout de suite avec Patrick Martin Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po. Bonjour Patrick Martin Jeunier, merci d'être avec nous en direct.
Bonjour.
Sur Sud Radio. Est-ce que vous y croyez encore à la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu?
Écoutez, c'est vrai que c'est très très difficile. En ce moment, les négociations continuent au Caire, en Égypte. Tout le monde a fait part de son scepticisme à ce sujet. Le Hamas, cette organisation terroriste, avait fait, semble-t-il, un pas. Il y a cette volonté de libérer les otages, d'autant, si vous voulez, qu'une grande pression est mise sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Tel Aviv. Les familles des otages manifestent tous les soirs. Donc, on peut y croire si tout le monde a cette volonté et surtout s'il y a une pression des États-Unis dans ce sens, parce qu'il est vrai aussi que le Premier ministre israélien doit faire face à des problèmes au sein même de sa coalition. Donc au final, c'est très compliqué pour tout le monde, mais on n'a toujours pas abandonné l'espoir d'une négociation qui puisse aboutir rapidement.
Effectivement, Patrick Martin-Jeunier, vous venez de parler des États-Unis. On le disait, Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement à Israël, c'est un tournant dans ce conflit pour vous ?
Alors c'est toute la question, parce que la question qui se pose aujourd'hui en Israël est de savoir si c'est un simple repli tactique, une position tactique, ou alors si c'est véritablement un changement stratégique dans la politique des États-Unis. Mais la position américaine a été très claire. Hier, j'ai écouté Lloyd Austin, le ministre de la Défense, dire qu'effectivement, les États-Unis cesseraient tout envoi de munitions, et beaucoup de munitions, des bombes notamment, pour si jamais Israël est le premier ministre souhaitait faire une offensive sur Rafah, ce que les États-Unis ne veulent pas. Donc on est aujourd'hui, c'est vrai, à une sorte de point de rupture, après que les États-Unis aient dit qu'ils apportaient un soutien sans faille à Israël. Cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait une fracture pour différentes raisons. Les États-Unis, notamment en campagne électorale, sous la pression des démocrates, le président des États-Unis effectivement semble reculer sur cette question stratégique.
Et il y a aussi cette offensive de Rafah qui fait très peur. Hein, bon, on le sait, en Europe, c'est extrêmement critiqué. Les États-Unis, comme vous dites, pour la première fois, menacent. C'est vrai qu'on se demande parfois quel est l'objectif clair d'Israël. Évidemment, éradiquer le Hamas, victoire totale, hein, dit Benjamin Netanyahou. Il n'empêche, on ne sait pas où ça va, à part peut-être dans l'impasse aujourd'hui.
Oui, il semblerait qu'il y ait effectivement une impasse, mais je dirais plus politique que militaire. Benjamin Netanyahou est prisonnier de sa coalition gouvernementale. Si, il est, comme vous savez, prisonnier de partis extrémistes ultra-religieux, dont il dépend à quelques voix à la Knesset, au Parlement. Et donc, ces partis ne veulent absolument pas qu'il recule. Et le Premier ministre a dit qu'il voulait continuer son offensive sur Gaza. C'est légitime en ce sens qu'il s'agit toujours officiellement d'éliminer les terroristes du Hamas, mais le fait est que ce sont essentiellement des victimes civiles qui sont touchées. Et ça, naturellement, les États-Unis et la communauté internationale ne peuvent plus l'accepter. On l'a bien vu avec tout ce qui se passe en Occident, notamment sur les campus universitaires à Paris et aux États-Unis. Mais en effet, aujourd'hui, cette initiative sur Rafah, eh bien, c'est ce que veut le Premier ministre, parce qu'en réalité, il joue ici sa survie politique.
Alors oui, très bien. Bon, ils jouent sa survie politique. Les otages, eux, israéliens, jouent leur vie. À Gaza, vous l'avez dit, il y a des morts civiles. Effectivement, qu'est-ce qui peut faire plier Benjamin Netanyahou et pour quel résultat? Parce que aujourd'hui, vous venez de le décrire, on va dans une impasse et à commencer peut-être par l'opinion publique israélienne et notamment les proches des otages qui craignent pour leur vie.
Bah, je crois que un seul pays est en capacité de faire une énorme pression sur Israël, c'est bien évidemment les États-Unis, parce que, attention, les États-Unis ne remettent pas en cause leur soutien à Israël dans le cadre d'un ensemble régional qui lui est hostile, mais ne veut pas de cette offensive sur Rafah. L'autre point sensible, ce sont, comme vous l'avez dit, les familles israéliennes. Voilà plusieurs semaines qu'elles manifestent devant le bureau du Premier ministre à Tel Aviv, et véritablement, ce sont ces familles qui font pression. Et enfin, un autre élément très important, c'est qu'une majorité d'électeurs israéliens ne font plus confiance politiquement à Benjamin Netanyahou. Un récent sondage a été fait dans la presse, au terme duquel 56%, 57% des Israéliens souhaitent le départ de Netanyahou. Et donc, il est dans une situation, une impasse politique. Et l'ensemble de ces facteurs peut effectivement contribuer à ce que des négociations continuent. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il avait commencé à faire un pas dans ce sens.
Patrick Martin-Jeunier, justement, sur quoi pourrait concrètement déboucher ce cessez-le-feu, hein, puisque les négociations, on le rappelle, se poursuivent activement au Caire, via le Qatar, l'Égypte?
Je pense qu'il faut négocier la libération des otages en vie, parce qu'il y en a malheureusement qui sont décédés, et vous savez qu'Israël souhaite récupérer les corps, ce qui est tout à fait légitime. Donc effectivement, cela pourrait d'abord constituer dans la libération des otages, mais aussi ce cessez-le-feu avec une perspective post-Hamas, c'est-à-dire qu'il y a des pistes qui pourraient être envisagées, au terme duquel ce seraient des États du Moyen-Orient, des États arabes qui pourraient continuer constituer des forces d'interposition, gérer ensuite la Gaza avec l'autorité palestinienne, mais avec la garantie de pays arabes du Moyen-Orient qui pourraient...
Oui, mais les parties négocient avec le Hamas actuellement, hein, tout de même.
Oui, mais le Hamas pourrait accepter un contrôle plus large de cette bande de territoire, parce que quand même, le Hamas est affaibli. Il est quand même considérablement affaibli, il le sait. Et donc, il a tout intérêt à continuer à négocier, bien que cela ne remette pas en cause la priorité d'Israël d'éliminer les terroristes du Hamas.
Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la situation au Proche-Orient. Merci à vous et on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'intelligence artificielle avec Laurent Alexandre.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée. sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, oh, elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, oh, elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien.
Sud Radio Menton
97.9
Sud Radio.
Ton palais c'est trois bouts de tôle, de planches de bois.
Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Midi 30, mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à réagir, chers auditeurs. 0826 300 300. On va parler intelligence artificielle avec Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, essayiste, auteur de ChatGPT va vous rendre immortel aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Laurent Alexandre.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. Je rappelle aussi que vous êtes diplômé de Sciences Po, d'HEC, de l'ENA. Vous êtes...
Je suis surtout chirurgien.
Oui, c'est vrai. Spécialiste donc de ces questions d'intelligence artificielle. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient tout juste de sortir avec ce titre un petit peu voilà, accrocheur et même provocateur. ChatGPT va vous rendre immortel. Vraiment ?
Ah, bah, c'est le grand débat à l'intérieur de la Silicon Valley entre les gens comme Elon Musk qui veulent nous augmenter et nous mettre à niveau avec l'intelligence artificielle grâce à des prothèses intracérébrales, et Elon Musk a créé une société, Neuralink, pour nous mettre à niveau avec l'intelligence artificielle. Hein. Neuralink est destiné à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et Elon Musk a plusieurs fois cette année répété qu'il mettrait ses prothèses intracérébrales dans le cerveau de ses propres enfants pour qu'ils ne soient pas largués face à l'intelligence artificielle. Et puis, l'opposition donc entre ce courant-là et puis un courant post-humaniste, notamment chez les dirigeants de Google, qui pensent que nous avons perdu la bataille face à l'intelligence artificielle et qu'il faut que nous transférions le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs pour fusionner avec l'intelligence artificielle en abandonnant notre corps biologique. Ce qui est une forme d'immortalité finalement numérique, oui, plus que biologique, qui fait très peur d'ailleurs aux philosophes
Luc Ferry, qui
ce matin encore dans le Figaro disait qu'il préférait l'augmentation en gardant un corps biologique plutôt que de fusionner avec les ordinateurs comme les dirigeants de Google le souhaitent.
Oui, parce que c'est vrai que là je vais être un peu terre à terre, mais forcément, même nos auditeurs vont forcément se poser la question. Là, on est un petit peu dans un film de science-fiction. Ça veut dire quoi concrètement ?
L'intelligence artificielle, nos corps, là, ça va être... l'intelligence artificielle est en train de bousculer notre civilisation. Hein. Il faut voir que le patron de Nvidia, qui est le principal fabricant de microprocesseurs pour l'intelligence artificielle, a déclaré récemment qu'en 2033, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que ChatGPT. Donc nous rentrons dans un monde de bouillonnement intellectuel où la place de l'homme va être problématique parce que nous sommes en train d'être dépassés dans tous les domaines. Dans mon univers qui est la médecine, l'IA est en train de nous dépasser. Nous médecins, le dépassement est en cours. Et la question se pose dans plein d'autres secteurs et pas seulement dans la médecine.
Le dépassement, mais pas le remplacement ?
Alors c'est une grande question, va-t-on vers le grand remplacement cognitif, pas le grand remplacement de Zemmour, le grand remplacement intellectuel par l'intelligence artificielle, c'est la crainte d'une partie des experts. Vous voyez, récemment, dans le Financial Times du 19 février 2024, Geoffrey Hinton, qui est le père, le créateur des intelligences artificielles modernes, a dit... J'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité d'ici 2044. Vous voyez donc, la crainte d'un grand remplacement, voire d'une extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, existe aujourd'hui, même parmi les experts. Et Elon Musk, toujours lui... industriel le plus célèbre au monde, l'homme qui a tué Ariane avec ses fusées SpaceX, etc., qui a développé toutes les entreprises que vous savez, a dit « Je pense que Geoffrey Hinton se trompe, ce n'est pas 10% de chance que nous soyons exterminés par l'IA d'ici 2044, c'est plutôt 20% à mon avis ». Donc, il y a des inquiétudes autour des super-pouvoirs de l'intelligence artificielle. Notre marginalisation fait peur, y compris au cœur de la Silicon Valley. Et il y a un deuxième débat qui est emboîté avec celui-là, c'est que certains intellectuels commencent à craindre que les géants de l'intelligence artificielle, que les milliardaires de l'intelligence artificielle ne poussent à la super-intelligence pour retarder la mort. Parce que la plupart des milliardaires de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley sont obsédés par la mort et espèrent que l'intelligence artificielle va les sauver de la mort.
De l'immortalité. Mais moi, je vais être terre à terre volontairement, parce que c'est vrai qu'on peut, vous écouter et se dire, mais bon, là, on a basculé un petit peu dans la folie. Mais on aura toujours besoin de maçons, de peintres, j'en sais rien, de métiers, voilà, de boulangers.
Oui,
de...
alors les métiers manuels sont menacés à l'horizon d'une quinzaine d'années. Avec mon ami l'économiste Babot, on a écrit un papier dans le Figaro il y a 15 jours. Les robots ouvriers vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien. Donc on va, avec la robotique branchée sur les nouvelles formes d'intelligence artificielle, on va avoir un concurrent redoutable pour les travailleurs manuels. Parce que la dextérité des robots progresse et surtout leur intelligence est extraordinaire. En 2030, le robot laveur de carreaux, il sera meilleur que moi en cancérologie. Il aura les capacités intellectuelles d'un ingénieur de haut niveau, il aura le niveau d'un docteur en chimie, il aura le niveau d'un astrophysicien, il aura une intelligence holistique globale qu'aucun homme n'a. Et en plus, il sera pas aux 39 heures, il bossera jour et nuit parce que les robots ne dorment pas. À l'horizon 2030-2035. Le patron de Nvidia, toujours, qui est l'une des plus grosses entreprises au monde, qui vaut 2300 milliards à la bourse de New York, a déclaré il y a 10 jours, les robots humanoïdes dotés de super intelligence artificielle vont voir leur prix tomber autour de 10 000 $.
Oui, j'allais y venir parce que
10 000 prix... dollars, vous voyez bien que pour un robot très intelligent qui travaille jour et nuit, par rapport aux travailleurs manuels biologiques, c'est super compétitif. Donc il faut qu'on réfléchisse à la réorganisation complète de l'école, de l'université, de la formation professionnelle et du monde du travail. Par exemple, dans les hôpitaux, l'intelligence artificielle va entraîner des bouleversements absolument immenses et personne n'y est prêt.
Mais quand je vous écoute, je me dis tous les débats actuels, dans les urgences, le manque de personnel, même l'école, l'éducation. Enfin, on a l'impression que c'est totalement vain quand on vous écoute.
Non, c'est pas vain. Mais ce qui est hallucinant, c'est que personne ne parle d'intelligence artificielle pendant le débat sur les européennes.
Ah ça.
Personne.
Oui.
On parle de sujets du passé.
Madame von der Leyen l'a à peu près découverte en février 2024. Non, mais c'est vrai qu'elle en a parlé. Elle dit ah oui, c'est un sujet très intéressant, alors que la Chine a déjà travaille tout comme les États-Unis depuis 30 ans. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant pour l'Europe.
Et toutes les grandes entreprises d'intelligence artificielle sont soit américaines, soit chinoises. On connaît les américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Nvidia, ainsi que Tesla et leurs équivalents chinois. La France a des belles petites start-up, notamment Mistral, qui est une belle boîte d'intelligence artificielle qui a été créée par un type absolument génial, Arthur Mensch. Mais ce sont des petits acteurs par rapport aux géants américains qui valent des milliers de milliards de dollars en bourse et qui ont des moyens énormes. D'autre part, la France paie très très mal ses chercheurs. Vous êtes informaticien spécialisé en intelligence artificielle, le CNRS, il vous recrute à 3005 ou quelque chose comme ça. Google et Microsoft et OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, recrute aujourd'hui les informaticiens à 10 millions de dollars de salaire annuel, 10 millions de dollars. Donc il y a des moyens massifs qui sont mis aux États-Unis alors que l'Europe investit très peu. Juste un chiffre pour inquiéter vos auditeurs. Amazon, qui est le leader mondial du stockage informatique avec Amazon Web Services, investit chaque année 72 milliards de dollars en recherche. C'est 20 fois le CNRS.
Comment vous expliquez ce retard européen ? Il est culturel ? Il est quoi ?
Il est culturel. L'Europe a été contaminée par des ayatollahs verts, anti-croissance, anti-science, anti-technologie, qui veulent bloquer toutes les technologies et qui finalement conduisent l'opinion à vouloir retourner en 1950 alors que nous sommes à la veille d'un bouleversement technologique absolument incroyable puisque nous sommes en train de rentrer dans un monde d'hyper-science, d'hyper-technologie, mais aussi d'hyper-croissance. La décroissance écologique, c'est fini. La croissance économique va exploser, notamment parce que la science va faire des découvertes incroyables grâce à l'intelligence artificielle. Juste un exemple, ça fait 38 ans qu'on n'avait pas inventé de nouvelles classes d'antibiotiques. Eh bien, l'intelligence artificielle vient de découvrir une nouvelle classe d'antibiotiques et ce n'est que le tout début des découvertes scientifiques absolument dingues que l'intelligence artificielle va réaliser dans les toutes prochaines années.
Vous parliez des écologistes, très bien, vous les critiquez, c'est votre droit, mais enfin maintenant, l'environnement, les questions environnementales, en quoi l'intelligence artificielle va pouvoir arrêter justement le réchauffement climatique et puis et gérer ces problématiques qui sont quand même fondamentales.
Alors, comme vous le savez, le réchauffement climatique, on peut le traiter, notamment en arrêtant d'émettre du CO2. Mais quand les écologistes font le choix des centrales au charbon en Allemagne et ferment les centrales nucléaires, ils aggravent le réchauffement climatique et ils font le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, les écologistes nous mettent dans une impasse en matière de réchauffement climatique. Leur amour du charbon, qui les pousse à construire en Allemagne des usines géantes, des centrales au charbon géantes et des mines au charbon géantes, après avoir fermé toutes les centrales nucléaires qui, elles, ne participent pas au réchauffement climatique, est catastrophique. Mais l'intelligence artificielle peut nous aider, notamment parce qu'elle peut nous améliorer le stockage et trouver des nouveaux matériaux pour stocker l'électricité, qui est un des gros obstacles qu'on a aujourd'hui. Et puis d'autre part, l'intelligence artificielle va nous aider pour développer l'énergie de fusion qui n'émet pas de CO2 et qui est une solution très intéressante dans les prochaines décennies pour stopper le réchauffement climatique. C'est la science qui réchauffera, qui cessera, qui réglera le réchauffement climatique. Ça n'est pas les ayatollahs verts.
Oui, alors vous parlez de notre intelligence qui va être quasiment immortelle, mais pas notre corps. Vous parlez de ces milliardaires qui veulent tuer la mort. C'est la prochaine étape.
Ah, c'est une obsession dans la Silicon Valley. Les dirigeants de Google ne pensent que ça, qu'à ça. Sam Altman, son premier investissement, quand il y a eu de l'argent, c'est d'investir dans une société qui est destinée à faire reculer la mort. Et puis, il a pris un abonnement avec une société qui s'appelle Nectome et qui a pour objectif de transférer le contenu de nos cerveaux dans des ordinateurs. Et Sam Altman a déclaré à la revue du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, je suis convaincu que le contenu de mon cerveau va être téléchargé dans le cloud computing, c'est-à-dire l'informatique dématérialisée.
Ça paraît extrêmement théorique. On va continuer à parler de ça, Laurent Alexandre. On marque une petite pause et on parlera de l'immortalité via l'IA. Restez avec nous.
Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio.
S'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Entre le feu et la glace, au-delà de nos différences, des coups de cas, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pour sans. Peu importe si la vie menace, ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent.
Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps.
Au-delà de nos différences, des coups de cœur, des coups de sang.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord, on est d'accord puisque on est en entretien bilatéral avec Laurent Alexandre, chirurgien entrepreneur, essayiste, auteur de ChatGPT qui va vous rendre immortel aux éditions Jean-Claude Lattès. Laurent Alexandre, on va tout de suite prendre un auditeur, ça fait réagir hein, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs voilà, qui estiment que ce débat est pour le moment complètement hors sol et qu'on dit des choses un peu folles. Alors, on va aller voir Dust qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Dust.
Bonjour Sud Radio.
Bonjour.
Bonjour à votre équipe et à la France entière qui écoute.
On espère la France entière, le monde entier même.
Oui. Je voulais revenir sur le fait de l'extinction de l'humanité par les IA. À mon avis, pour l'instant, c'est des maxi supercalculateurs, mais rien de plus. Ce qui pourrait être dangereux, c'est que leur puissance intellectuelle leur amène une conscience. Sans conscience, elle va pas projeter de nous exterminer, puisqu'elle sait pas ce que c'est demain. Et surtout, elle sait pas que si on coupe le jus, eh bien elle s'arrête. Si elle a une conscience et que ça se produit, on va vite dégager. Ensuite, les robots vont arriver en parallèle, et donc on n'aura plus besoin ni de charpentiers, ni d'infirmières, ni de rien. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer à dégénérer physiquement, parce qu'on aura tous les services, on aura toute l'intelligence, et peut-être que l'IA aura du mal à compenser par des médicaments cette dégénérescence qui demande une certaine activité, et donc une discipline, qu'on n'a pas trop les humains. Donc voilà, mal se passer, je pense que ça va mal se passer, mais peut-être pas comme dans un film de science-fiction.
Merci Dust, en tout cas vous avez résumé toutes les problématiques et les grandes interrogations qu'on se pose quand on écoute Laurent Alexandre qui lui-même hein, me disait hors antenne que rien n'était certain dans tout ce qu'on se disait aujourd'hui, qu'il y avait des hypothèses. Laurent Alexandre, quand vous entendez notre auditeur parler tout ça, ça vous inspire quoi? Effectivement, c'est intéressant ce qu'il dit, la conscience.
Il y a une erreur dans ce qui a été dit, c'est de dire que l'intelligence artificielle, c'est juste des supercalculateurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est bien le problème. S'il y a, c'était juste un calculateur, on serait pas dans la situation très délicate où nous sommes aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle est très intelligente et elle est en train de devenir plus intelligente.
Mais il parlait de conscience et ça, c'est très intéressant.
Que les humains.
Ce qu'il
Alors aujourd'hui, elle n'a pas de conscience artificielle. Oui. Il y a un grand débat pour savoir quand la conscience artificielle pourrait arriver. Et puis, est-ce qu'il faut autoriser les intelligences artificielles à avoir une conscience artificielle avec des objectifs propres? Ça, c'est une grande question. Mais il y a une question intéressante qui a été soulevée, c'est comment éviter qu'on atrophie notre cerveau, que tout le monde glande, que nos enfants soient des grosses feignasses.
Oui.
Eh bien, je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut exiger plus que jamais de nos enfants. Il faut pas en faire des feignasses, des feignants. Il faut les pousser à beaucoup travailler. Et moi, je pense que ce que disait le général de Gaulle en 1934 dans l'armée de métier... l'école du commandement, c'est la culture générale. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, hein, Aristote qui était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand.
Oui.
Eh bien, je pense que c'est en 2024 encore plus vrai qu'en 1934. La culture générale est essentielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, qui va nous dépasser dans plein de domaines, il faut que nos enfants soient très transversaux, très multidisciplinaires. C'est pour ça que le programme éducatif avec ma femme qu'on a eu pour nos gamins se résume en trois termes. Un, culture générale. Deux, culture générale. Trois, culture générale. C'est ça qui est essentiel pour l'avenir des gamins. C'est pas d'en faire des spécialistes étroits, car l'IA va faire mieux que tous les spécialistes étroits. En revanche, il y a une place pour des gamins curieux, innovants et multidisciplinaires qui font le lien dans leurs études et dans leur culture générale entre les différents domaines. Je pense que c'est très important de beaucoup pousser nos gamins à bosser. Parce que, à l'ère de l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de place pour les médiocres et pour les feignasses.
Ouf, c'est dur quand même ce que vous nous dites.
Pensez, vous pensez que face à la super intelligence artificielle, de glander d'être une feignasse va être une solution?
Mais ça
je pense
pas
vraiment
aujourd'hui, cela dit.
Je pense vraiment le contraire.
Mais justement, vous parliez tout à l'heure de greffer les milliardaires de la Silicon Valley qui pensaient à greffer une forme d'intelligence dans le cerveau. Enfin, je reprends pas vos termes exacts, mais justement, ça peut compenser ceux qui ont de moins de facultés intellectuelles.
Oui, alors,
l'intelligence artificielle pourra gommer ça,
alors,
et marginaliser l'intelligence biologique.
C'est le but d'Elon Musk, comme vous le savez, de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants et dans le nôtre. Ça pose un problème, c'est qu'il y a des gens, notamment les croyants, qui vont refuser. Donc on pourrait avoir une société à deux vitesses. Des hommes augmentés d'un côté, avec des ordinateurs dans le cerveau, et puis des hommes non augmentés, des hommes normaux, qui seraient finalement les esclaves des premiers. Donc l'augmentation par voie électronique de nos cerveaux, que propose Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, pose des problèmes éthiques et des problèmes politiques, parce que si une part significative de la population refuse cette augmentation électronique que propose Elon Musk, ces gens deviendront les chimpanzés du futur face aux humains augmentés.
Et n'en aura pas les moyens, peut-être, parce
mais ça,
que
ça
tout
coûtera
ça...
rien. Cette technologie ne coûtera rien. Elle ne coûtera pas plus cher qu'un téléphone portable en 2030 ou 2040. Donc le problème n'est pas économique, il est social et politique.
Et puis, d'autre part, une forme d'eugénisme, justement, de sélectionner à la naissance.
Alors ça, c'est l'autre problème éthique considérable. On se rend compte que depuis la sortie de ChatGPT, par exemple, aux États-Unis, les Américains sont de plus en plus eugénistes. Un sondage réalisé récemment par la très grande revue Science, qui est la plus grande revue scientifique au monde avec Nature, montre que 38% des Américains souhaitent maintenant augmenter le quotient intellectuel de leur bébé grâce à la sélection génétique, de manière à ce qu'ils puissent résister à l'intelligence artificielle. C'est un chiffre complètement dingue. Quasiment 4 Américains sur 10 sont prêts à bidouiller les chromosomes de leur bébé pour qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. ChatGPT a entraîné une grande inquiétude chez les parents sur la complémentarité de leurs enfants, sur la place de leurs enfants dans ce nouveau monde, qui est un toboggan eugéniste. Et tout le monde est très surpris parmi les spécialistes de l'éthique aux États-Unis de la vitesse à laquelle l'opinion est en train de basculer dans une demande eugéniste face à l'intelligence artificielle. C'est très, très, très troublant parce que on pensait que les Américains, qui sont, comme vous le savez, très fortement croyants, ne voudraient jamais utiliser des techniques eugénistes face à l'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle inquiète tant les parents qu'ils ont basculé aux États-Unis et on a la même chose en Chine.
Alors c'est vrai qu'en France, alors là, personne n'en parle.
La Chine et les Américains fabriquent des petits génies à la chaîne par ces technologies-là, il faudra qu'on suive, sinon nos enfants seront les domestiques des Chinois et des Californiens.
Mais vous êtes d'accord qu'aujourd'hui l'éducation en France, c'est à peine si on parle de ChatGPT, au contraire on s'en méfie parce qu'on a peur qu'il fasse devoirs à la place de l'enfant.
On a effectivement un problème, l'éducation ne prépare pas nos enfants à être compétitifs, à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il n'y a quasiment aucun spécialiste de l'intelligence artificielle au ministère. Les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont pas GPT-4, n'ont pas ChatGPT, ne s'en servent pas, ne connaissent pas ces outils. Donc oui, il y a une réforme majeure de l'éducation et de l'université pour que nos enfants ne soient pas des paumés demain, ne soient pas tous des gilets jaunes dans ce monde où l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser. Il faut réfléchir, et c'est un enjeu politique majeur, à la façon d'éviter que nos gamins soient largués, soient abandonnés dans cette économie de l'intelligence artificielle. Donc la réforme de l'éducation est aujourd'hui la priorité numéro un. On ne devrait parler que de ça en politique. Or, personne n'en parle parce que la plupart des élites politiques sont assez technophobes, n'aiment pas beaucoup la technologie. Alors, il y a des exceptions. On a des gens qui connaissent très très bien la technologie, Laurent Wauquiez, David Isnard, Olivier Véran, mais globalement, ils sont minoritaires. Il y a plus de gens qui connaissent pas l'intelligence artificielle, comme hélas Gabriel Attal, le Premier ministre, que de gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle, comme les trois que j'ai cités.
Vous parliez justement de cette obsession de la mort qui sera donc apparemment résorbée par l'intelligence artificielle. Expliquez-nous un petit peu justement comment on va tuer la mort.
Donc vous avez deux voies. La première, c'est de d'augmenter notre espérance de vie biologique. Hein. C'est pour ça que Google a créé une société destinée à retarder la mort, à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Donc ça, c'est une voie biologique. On utilise l'intelligence artificielle et les biotechnologies pour retarder le vieillissement. Et puis, vous avez une deuxième voie qui est développée en parallèle, qui est de
cancer,
nous rendre immortels, qui est de nous rendre immortels, mais en abandonnant notre corps, c'est-à-dire en transférant notre cerveau dans des ordinateurs. Donc, c'est la voie qui est privilégiée par les dirigeants de Google, en parallèle de ce qu'ils font en matière biologique, et également par Sam Altman, puisque, comme je vous le disais, il a pris un abonnement dans une société qui prévoit de transférer les cerveaux, et notamment celui de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, dans des ordinateurs. Mais là, ça n'est plus une immortalité biologique,
c'est
une immortalité numérique, où notre cerveau est transféré sur les ordinateurs, mais où il n'y a plus de corps.
Bon, écoutez, merci Laurent Alexandre, en tout cas ça laisse songeur et ça porte à réflexion. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ChatGPT va vous rendre immortel, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous.
Sud Radio à Brignoles en DAB+.
Sud Radio.
Son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent, les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après, je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Si loin on voit les lumières, la terre peut faire tous les bruits qu'elle veut. Y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. We'll be right back.
de chaleur là dans la cabane du pêcheur. Moi, j'attends que le monde soit meilleur là dans la cabane du pêcheur.
Sud Radio.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout. Je remets